Chapitre 4 La salle d'attente. Eh bien, oui, je t'aime, plus que jamais, pour toujours. À quoi bon lutter, nous débattre? Notre crime est plus fort que nous. Après tout, est-ce bien un crime de nous aimer? Nous étions destinés l'un à l'autre. N'avons-nous pas le droit de nous rejoindre, malgré la vie qui nous a séparés? Allons, viens, c'est fini, nous partons. Demain soir, gare de Lyon à 10 heures. Des billets seront pris et je t'attendrai. Franz. Il y avait un mois que Sidonie espérait cette lettre. Un mois qu'elle mettait en œuvre toutes ses câlineries et ses ruses pour amener son beau-frère à cette explosion de passion écrite. Elle avait eu du mal à y arriver. Ce n'était pas facile de pervertir jusqu'au crime un cœur honnête et jeune comme celui de France. Et dans cette lutte singulière où celui qui aimait véritablement combattait contre sa propre cause, elle s'était sentie souvent à bout de force et presque découragée. Lorsqu'elle le croyait le plus dompté, sa droiture se révoltait tout à coup et il était tout prêt à s'enfuir, à lui échapper encore. Aussi, quel triomphe pour elle quand cette lettre lui fut remise un matin. Justement, Madame Thompson était là. Elle venait d'arriver, chargée des plaintes de Georges qui s'ennuyait loin de sa maîtresse et commençait à s'inquiéter de ce beau frère, plus assidu, plus jaloux, plus exigeant qu'un mari. « Ah, le pauvre cher, le pauvre cher !» disait la sentimentale américaine. « Si tu voyais comme il est malheureux !» Et tout en secouant ses frisures, elle dénouait son rouleau de musique, en tirait des lettres du pauvre cher, qu'elle cachait soigneusement entre les feuilles de ses romances, heureuse de se trouver mêlée à cette histoire d'amour, de s'exalter dans une atmosphère d'intrigue et de mystère qui attendrissait ses yeux froids et son teint de blonde sèche. Le plus étrange, c'est que tout en se prêtant à très volontiers à ce va-et-vient de lettres d'amour, cette jeune et jolie Thompson n'en avait jamais écrit ni reçu une seule pour son compte. Toujours en route entre Asnières et Paris, un message amoureux sous son aile, ce singulier pigeon voyageur restait fidèle à son pigeonnier et ne recoulait que pour le bon motif. Quand Sidonie lui eut montré le billet de France, Madame Thompson demanda « Et que vas-tu répondre ?»« Bien c'est fait, j'ai répondu oui. »« Comment, tu partirais avec ce fou ?» Sidonie se mit à rire. « Ah, mais non, par exemple. » J'ai dit oui, pour qu'il aille m'attendre à la gare, voilà tout. C'est bien le moins que je lui donne un quart d'heure d'angoisse. Il m'a rendue assez malheureuse depuis un mois. Pense que j'ai changé toute ma vie pour ce monsieur. J'ai dû renoncer à recevoir, fermer ma porte à mes amis, à tout ce que je connais de jeune et d'aimable, à commencer par Georges et à finir par toi. Car tu sais, ma chérie, tu lui déplaisais toi aussi et il aurait voulu te renvoyer comme les autres. » Ce que Sidonie ne disait pas, et sa raison la plus forte d'en vouloir à Franz, c'est qu'il lui avait fait très peur en la menaçant de son mari. À partir de ce moment, elle s'était sentie toute mal à l'aise, et sa vie, sa chère vie qu'elle choyait tant, lui avait semblé sérieusement exposée. Ces hommes trop blonds et froids d'aspect comme Rissler ont des colères terribles, des colères blanches dont on ne peut calculer les résultats, comme ces poudres explosibles sans couleur ni saveur que l'on craint d'employer parce qu'on n'en connaît pas la puissance. Positivement, l'idée qu'un jour ou l'autre son mari pouvait être prévenu de sa conduite l'épouvantait. De son existence d'autrefois, existence pauvre dans un quartier populeux, il lui revenait des souvenirs de ménage en déroute, de mari vengé, de sang éclaboussé sur les hontes de l'adultère. Des visions de mort la poursuivaient. Et la mort, l'éternel repos, le grand silence, était bien fait pour effrayer ce petit être affamé de plaisir, avide de bruit et de mouvement jusqu'à la folie. Cette bienheureuse lettre mettait fin à toute cette erreur. Maintenant, il était impossible que Franz la dénonçât, même dans sa fureur de déconvenue, en lui sachant une arme pareille entre les mains. D'ailleurs, s'il parlait, elle montrerait la lettre, et toutes ses accusations deviendraient pour Risler de pure calomnie. « Ah, monsieur le justicier, nous vous tenons à présent !» Subitement, elle fut prise d'un accès de joie folle. « Je renais, mais je renais !» disait-elle à madame Thompson. Elle courait dans les allées du jardin, se fit de gros bouquets pour son salon, ouvrit les fenêtres toutes grandes au soleil, donna des ordres à la cuisinière, au cocher, au jardinier. Il fallait que la maison fût belle. Georges allait revenir et, pour commencer, elle organisa un grand dîner pour la fin de la semaine. Vraiment, on aurait dit qu'elle avait été absente pendant un mois et qu'elle revenait d'un voyage d'affaires ennuyeux et fatigant, tant elle mettait de hâte à faire autour d'elle du mouvement et de la vie. Le lendemain, dans la soirée, Sidonie, Risler et madame Thompson étaient réunis tous les trois au salon. Pendant que le bon Risler feuilletait un gros bouquin de mécanique, madame Thompson accompagnait au piano Sidonie qui chantait. Tout à coup, celle-ci s'interrompit au milieu de sa romance et partit d'un éclat de rire. 10 heures venaient de sonner. Risler leva le nez vivement. « Mais qu'est-ce qui te fait rire ?»« Oui, une idée, » répondit Sidonie en montrant la pendule à madame Thompson d'un petit clignement d'yeux. C'était l'heure à indiquer pour le rendez-vous, et elle pensait au tourment de son amoureux en train de l'attendre. Depuis le retour du messager qui avait apporté à Franz le « oui » de Sidonie, si fiévreusement attendu, il s'était fait un grand calme dans son esprit troublé et comme une détente subite. Plus d'incertitude, plus de tiraillement entre la passion et le devoir. Instantanément, il se sentit allégé, comme s'il n'avait plus de conscience. Avec le plus grand calme, il fit ses préparatifs, roula ses malles sur le carreau, vida la commode et les armoires, et bien longtemps avant l'heure qu'il avait fixée pour qu'on vînt chercher ses bagages, il était assis sur une caisse au milieu de sa chambre, regardant devant lui la carte géographique clouée au mur comme un emblème de sa vie errante et suivant de l'œil la ligne droite des routes et ce trait ondé comme une vague qui figure les océans. Pas une fois, la pensée ne lui vint que de l'autre côté du palier, quelqu'un pleurait et soupirait à cause de lui. Pas une fois, il ne songea au désespoir de son frère, au drame épouvantable qu'ils allaient laisser derrière eux. Il était bien loin de toutes ces choses, parti en avant, déjà sur le quai de la gare, avec Sidonie, en vêtements sombres de voyage et de fuite. Plus loin encore, au bord de la mer bleue, où il s'arrêterait quelque temps pour dépister les recherches. Toujours plus loin, arrivant avec elle dans un pays inconnu où nul ne pourrait la demander ni la reprendre. D'autres fois, il songeait au wagon en route dans la nuit à la campagne déserte. Il voyait une tête mignonne et pâle appuyée près de la sienne sur les coussins, une lèvre en fleurs à portée de sa lèvre et deux yeux profonds qu'il regardait sous la lumière douce de la lampe, dans le bercement des roues et de la vapeur. Et maintenant, souffle et rugis, machine, ébranle la terre, rougis le ciel, crache la fumée et la flamme, plonge-toi dans les tunnels, franchis les monts et les fleuves, saute, flambe, éclate. Mais emporte-nous avec toi, emporte-nous loin du monde habité, de ses lois, de ses affections, hors de la vie, hors de nous-mêmes. 2 heures avant l'ouverture du guichet pour le train désigné, Franz était déjà à la gare de Lyon, cette gare triste qui, dans le Paris lointain où elle est située, semble une première étape de la province. Il s'assit dans le coin le plus sombre et resta là, sans bouger, comme étourdi. À cette heure, son cerveau était aussi agité et tumultueux que la gare elle-même. Il se sentait envahi par une foule de réflexions sans suite, de souvenirs vagues, de rapprochements bizarres. En une minute, il faisait de tels voyages au plus lointain de sa mémoire qu'il se demanda 2 ou 3 fois pourquoi il était là et ce qu'il attendait. Mais l'idée de Sidonie jaillissait de ses pensées sans suite et les éclairait d'une pleine lumière. Elle allait venir. Et machinalement, quoique l'heure du rendez-vous fût encore bien éloignée, il regardait parmi ces gens qui se pressaient, s'appelaient, cherchant s'il n'apercevrait pas cette silhouette élégante sortie tout à coup de la foule et l'écartant à chaque pas au rayonnement de sa beauté. Après bien des départs, des arrivées, des coups de sifflet dont le cri captif sous les voûtes ressemblait à un déchirement, il se fit un grand vide dans la gare, déserte subitement comme une église en semaine. Le train de 10 heures approchait. Il n'y en avait plus d'autre avant celui-là. Franz se leva. Maintenant, ce n'était plus un rêve, une chimère perdue dans ces limites du temps si vastes, si incertaines. Dans 1 quart d'heure, 1/2 heure au plus tard, elle serait là. Alors commença pour lui l'horrible supplice de l'attente, cette suspension de tout l'être, singulière situation du corps et de l'esprit, où le cœur ne bat plus, où la respiration halète comme la pensée, où les gestes, les phrases restent inachevés, où tout attend. Les poètes l'ont 100 fois décrite, cette angoisse douloureuse de l'amant qui écoute le roulement d'une voiture dans la rue déserte, un pas furtif montant l'escalier. Mais attendre sa maîtresse dans une gare, dans une salle d'attente, c'est bien autrement lugubre. Ses quinquets allumés et sourds, sans reflet sur un plancher poussiéreux, ses grandes baies vitrées, cet incessant bruit de pas et de portes qui sonnent aux oreilles inquiètes, la hauteur vide des murs, ces affiches qui s'y étalent, train de plaisir pour Monaco, promenade circulaire en Suisse, cette atmosphère de voyage, de changement, d'indifférence, d'inconstance, tout est bien fait pour serrer le cœur et augmenter son angoisse. Franz allait, venait, guettant les voitures qui arrivaient. Elle s'arrêtait aux longues marches de pierre. Les portières s'ouvraient, se refermaient bruyamment, et de l'ombre du dehors, les visages apparaissent en lumière sur le seuil, figures tranquilles ou tourmentées, heureuses ou navrées, chapeaux à plumes serrés de voiles claires, bonnets de paysannes, enfants endormis qu'on traînait par la main. Chaque apparition nouvelle le faisait tressaillir. Il croyait la voir hésitante, voilée, un peu embarrassée. Oh, mais comme il serait vite auprès d'elle pour la rassurer, pour la défendre. À mesure que la gare s'emplissait, le guet devenait plus difficile. Les voitures se succédaient sans interruption. Il était obligé de courir d'une porte à l'autre. Alors il sortit, pensant qu'il serait mieux dehors pour voir, et ne pouvant supporter plus longtemps dans l'air banal et étouffé de la salle l'oppression qui commençait à l'étreindre. Il faisait un temps mou de la fin de septembre. Un brouillard léger flottait et les lanternes des voitures apparaissaient troubles et mates au bas de la grande chaussée en pente. Chacune, en arrivant, avait l'air de dire « C'est moi, me voilà !» Mais ce n'était jamais Sidonie qui descendait. Et cette voiture qu'il avait regardée venir de loin, le cœur gonflé d'espoir, comme si elle eût contenu plus que sa vie, ben il la voyait s'en retourner vers Paris, banalement légère et vide. L'heure du départ approchait. Il regarda au cadran, il n'y avait plus qu'un quart d'heure. Cela lui parut effrayant, mais la cloche du guichet qu'on venait d'ouvrir l'appelait. Il y courut et prit son rang dans la longue file. « Deux premières pour Marseille » demanda-t-il. Il lui semblait que c'était déjà une prise de possession. Parmi les brouettes chargées de colis, les gens en retard qui se bousculaient, il retourna à son poste d'observation. Les cochers lui criaient « Gare !» Il restait sur le passage des roues, sous le pied des chevaux, l'oreille assourdie, les yeux grands ouverts. Plus que 5 minutes. Oh, il était presque impossible qu'elle arrivât à temps. On se précipitait pour entrer dans les salles intérieures. Les malles roulaient au bagage, et les gros paquets enveloppés de linge, les valises à clous de cuivre, les petits sacs en sautoir des commis voyageurs, les paniers de toute grandeur s'engouffraient à la même porte, secoués, balancés avec la même hâte. Enfin, elle apparut. Oui, la voilà, c'est bien elle, une femme en noir, mince, élancée, accompagnée d'une autre plus petite, Madame Thompson, sans doute. Mais au second regard, il se détrompa. C'était une jeune femme qui lui ressemblait, élégante comme elle, parisienne, la physionomie heureuse. Un homme jeune aussi va la rejoindre. Ce devait être un voyage de noces. La mère les accompagnait et venait les mettre en wagon. Ils passèrent devant Franz, enveloppés dans le courant de bonheur qui les entraînait. Avec un sentiment de rage et d'envie, il les vit franchir la porte battante, appuyés l'un à l'autre, unis et serrés dans la foule. Il lui sembla que ces gens-là l'avaient volé, que c'était sa place à lui et celle de Sidonie qu'ils allaient occuper dans le train. À présent, c'est la folie du départ, le dernier coup de cloche, la vapeur qui chauffe avec un bruit sourd où se mêle le piétinement des retardataires, le fracas des portes et des lourds omnibus. Et Sidonie ne vient pas. Et Franz attend toujours. À ce moment, une main se pose sur son épaule. Dieu ! Il se retourne. La grosse tête de M. Gardinois, encadrée d'une casquette à oreillons, est devant lui. Ah, je ne me trompe pas, c'est M. Rissler. Vous partez donc par l'express de Marseille ? Moi aussi, mais je ne veux pas loin. Il explique à Franz qu'il a manqué le train d'Orléans et qu'il va tâcher de rejoindre Savigny par la ligne de Lyon. Puis il parle de Rissler aîné de la fabrique. Et il paraît que ça va pas, les affaires, depuis quelque temps. Ils ont été pincés dans la famille Bonnardel. Ah, nos jeunes gens ont besoin de prendre garde. Du train dont ils mènent leur banque, il pourrait bien leur en arriver autant qu'aux Bonnardel. Mais, pardon, je vois que voilà le guichet qui va fermer. Au revoir. Franz a à peine entendu ce qu'on vient de lui dire. La ruine de son frère, l'écroulement du monde entier, rien ne compte plus pour lui. Il attend, il attend. Mais voilà le guichet qui se ferme brusquement, comme une dernière barrière devant son espoir entêté. La gare est vide de nouveau. La rumeur s'est déplacée, transportée sur la voie. Et soudain, un grand coup de sifflet qui se perd dans la nuit arrive à l'amant comme un adieu ironique. Le train de 10 heures est parti. Il essaie d'être calme et de raisonner. Évidemment, elle aura manqué le convoi d'Asnières. Mais sachant qu'il l'attend, elle va venir n'importe à quelle heure de la nuit. Attendons encore. La salle est faite pour cela. Le malheureux s'assied sur un banc. On a fermé les larges vitres où l'ombre se plaque avec des luisants de papier verni. La marchande de livres, à moitié assoupie, s'occupe de ranger sa boutique. Il regarde machinalement ses fils de volumes bariolés, toute la bibliothèque des chemins de fer, dont il sait les titres par cœur depuis 4 heures qu'il est là. Il y a des livres qu'il reconnaît pour les avoir lus sous la tente à Ismaïlia ou dans le paquebot qui le ramenait de Suez. Et ces romans vulgaires, insignifiants, qui en ont tous gardé pour lui un parfum marin ou exotique. Mais bientôt la boutique des livres est fermée, et il n'a même plus cette ressource pour tromper sa fatigue et sa fièvre. La baraque aux joujoux vient de rentrer aussi tout entière dans sa clôture de planches. Les sifflets, les brouettes, les arrosoirs, les pelles, les râteaux, tout l'outillage des petits Parisiens en villégiature disparaît en une minute. La marchande, une femme maladive, a l'air triste, s'entortille d'un vieux manteau et s'en va, sa chaufferette à la main. Tous ces gens-là ont fini leur journée, l'ont prolongée jusqu'à la dernière minute, avec cette vaillance et cet entêtement de Paris qui n'étincelle réverbère qu'au jour. Cette idée de longue veille le fait penser à une chambre bien connue où la lampe baisse à 7 heures sur la table chargée de colibris et de lucioles. Mais cette vision traverse rapidement son esprit dans ce chaos de pensées sans suite que fait naître en lui le délire de l'attente. Tout à coup, il s'aperçoit qu'il meurt de soif. Le café de la gare est encore ouvert. Il y entre. Les garçons de nuit dorment sur les banquettes. Le plancher est humide de la rinçure des verres. On met un temps infini à le servir. Puis au moment de boire, l'idée que Sidonie est peut-être arrivée pendant son absence, qu'elle le cherche dans la salle, le fait se lever en sursaut et partir comme un fou, en laissant son verre plein et sa monnaie sur la table. Elle ne viendra pas, il le sent. Son pas, qui résonne sur toute la longueur du perron devant la gare, monotone et régulier, l'agace à entendre comme un témoignage de sa solitude et de sa déconvenue. Mais que s'est-il donc passé? Qui a pu la retenir? A-t-elle été malade ou bien est-ce le remords anticipé de sa faute? Mais dans ce cas, elle aurait fait prévenir, elle aurait envoyé Madame Thompson. Peut-être aussi Risler avait-il trouvé la lettre. Elle était si folle, si imprudente. Et pendant qu'il se perdait ainsi en conjectures, l'heure s'avançait. Déjà le haut des bâtiments de Mazas plongeait dans l'ombre, blanchissait et devenait distinct. Que faire? Il fallait aller à Asnières tout de suite, tâcher de savoir, de s'informer. Il aurait voulu y être déjà. Sa résolution prise, il descendit la rampe de la gare d'un pas rapide, croisant sur sa route des soldats chargés de leurs sacs, des pauvres gens arrivant pour le train du matin, le train des misères qui se lève de bonne heure. Il traversa le Paris du petit jour, un Paris triste et frissonnant, où la lanterne des postes de police jetait de loin en loin sa lueur rouge, et que les sergents de ville arpentaient deux par deux, s'arrêtant à l'angle des rues, scrutant l'ombre d'un regard. Devant un de ces postes, il vit du monde arrêté, des chiffonniers, des femmes de la campagne. Sans doute quelque drame de la nuit qui allait avoir son dénouement chez le commissaire de police. Ah, si Franz avait su ce que c'était que ce drame! Mais il ne pouvait pas s'en douter, et regarda cela de loin, avec indifférence. Seulement, toutes ces laideurs, cette aube qui se levait sur Paris avec des pâleurs fatiguées, ces réverbères clignotants au bord de la Seine comme les cierges d'une veillée mortuaire, les rintements de sa nuit blanche l'enveloppèrent d'une tristesse profonde. Quand il arriva à Asnières, après 2 ou 3 heures de marche, ce fut comme un réveil. Le soleil levant, dans toute sa gloire, enflammait la plaine et l'eau. Le pont, les maisons, le quai, tout avait cette netteté du matin qui donne l'impression d'un jour tout neuf, sortant lumineux et souriant des brumes épaisses de la nuit. De loin, il aperçut la maison de son frère, déjà réveillée, et les persiennes ouvertes et les fleurs au bord des croisées. Il errera quelque temps avant d'oser entrer. Tout à coup, quelqu'un le héla de la berge. « Tiens, monsieur Franz, comme vous voilà de bonne heure aujourd'hui !» C'était le cocher de Sidanie qui allait baigner ses chevaux. « Rien de nouveau à la maison ?» lui demanda Franz en tremblant. « Non, rien de nouveau, monsieur Franz. » Mon frère est-il chez lui ? Oh non, monsieur, a couché à la fabrique. Il n'y a personne de malade. Oh non, monsieur Franz, personne que je sache. Et les chevaux entrèrent dans l'eau jusqu'au poitrail en faisant jaillir l'écume. Alors Franz se décida à sonner à la petite porte. On ratissait les allées du jardin. La maison était en rumeur. Et malgré l'heure matinale, il entendit la voix de Sidonie, claire et vibrante, comme un chant d'oiseau dans les rosiers de la façade. Elle parlait avec animation. Franz, très ému, s'approcha pour écouter. Non, non, pas de crème, le parfait suffira. Oh, surtout qu'il soit bien glacé, et pour 7 heures. Et comment entrer, voyons un peu. Elle était en grande conférence avec sa bonne pour son fameux dîner du lendemain. La brusque apparition de son beau-frère ne la dérangea pas. « Ah, bonjour, Franz, lui dit-elle bien tranquillement. Je suis à vous tout à l'heure. Nous avons du monde à dîner demain, des clients de la maison, un grand dîner d'affaires. Vous permettez, n'est-ce pas ? » Fraîche, souriante, dans les ruches blanches de son peignoir traînant et de son petit bonnet de dentelle, elle continua à composer son menu en aspirant l'air frais qui montait de la prairie et de la rivière. Il n'y avait pas, sur ce visage reposé, la moindre trace de chagrin ou d'inquiétude. Son front uni, cet étonnement charmant du regard qui si longtemps devait la garder jeune, sa lèvre entr'ouverte et rose faisait un étrange contraste avec la figure de l'amant décomposée par sa nuit d'angoisse et de fatigue. Pendant un grand quart d'heure, Franz, assis dans un coin du salon, vit défiler devant lui, dans leur ordre habituel, tous les plats convenus d'un dîner bourgeois, depuis les petits pâtés chauds, la sole normande, les innombrables ingrédients dont elle se compose, jusqu'aux pêches de Montreuil et aux chasselas de Fontainebleau. Elle ne lui fit pas grâce d'un entremets. Enfin, quand ils furent seuls et qu'il put parler, « Mais vous n'avez donc pas reçu ma lettre ?» demanda-t-il d'une voix sourde. « Mais si, parfaitement. » Elle s'était levée pour ajuster devant la glace quelques petits frisons mêlés à ses rubans flottants, et continua tout en se regardant. « mais si, je l'ai reçue, votre lettre. Oh, j'ai même été enchanté de la recevoir. Maintenant, si l'envie vous prenait de faire à votre frère les vilains rapports dont vous m'aviez menacé, je lui prouverais facilement que le dépit d'un amour criminel, repoussé par moi comme il convenait, a été la seule cause de ces délations mensongères. Tenez-vous pour averti, mon cher, et à revoir. » Heureuse comme une actrice qui vient de finir une tirade à grand effet, elle passa devant lui et sortit du salon en souriant, le coin de la bouche relevé, triomphante et sans colère. Et il ne la tua pas. Chapitre 5. Un fait divers. La veille de ce jour néfaste, quelques instants après que Franz eut quitté furtivement sa chambre de la rue de Braque, l'illustre de Lobel rentra chez lui tout bouleversé, avec cette attitude lasse et désabusée qu'il opposait toujours aux événements contraires. « Oh, mon Dieu, mon pauvre homme, qu'est-ce qui t'arrive ?» demanda aussitôt la maman de Lobel, que 20 ans d'une mimique exagérée et dramatique n'avait pas encore blasé. Avant de répondre, l'ex-comédien, qui ne manquait jamais de faire précéder ses moindres paroles de quelques jeux de physionomie, appris autrefois pour la scène, abaissa la bouche en signe de dégoût et d'écœurement, comme s'il venait d'avaler à la minute quelque chose de très amer. « Il y a, dit-il, que décidément, ces Risleurs sont des ingrats ou des égoïstes, et à coup sûr des gens très mal élevés. Savez-vous ce que je viens d'apprendre en bas par la concierge qui me regardait du coin de l'œil en me narguant ? Eh bien, Franz Risler est parti. Puis il a quitté la maison tantôt, et Paris peut-être à l'heure qu'il est, sans seulement venir me serrer la main, me remercier de l'accueil qu'on lui faisait ici. Mais comment trouvez-vous cela? Car il ne vous a pas dit adieu à vous autres non plus, n'est-ce pas? Et pourtant, il n'y a pas un mois, il était toujours fourré chez nous, sans reproche. » La maman de Lobel eut une exclamation de surprise et de chagrin véritable. Désiré, au contraire, ne dit pas un mot, ne fit pas un geste. Toujours le même petit glaçon. Le laiton qu'elle tournait ne s'arrêta même pas dans ses doigts agiles. « Il y a donc deux amis, » continuait l'illustre de Lobel. « Mais qu'est-ce que je vais donc faire encore à celui-là ? » C'était une de ses prétentions de se croire poursuivi par la haine du monde entier. Cela faisait partie de son attitude dans l'existence, à se crucifier de l'art. Doucement, avec des tendresses presque maternelles, car il y a toujours de la maternité dans l'affection indulgente, pardonnante, qu'inspirent ses grands-enfants, la maman de Lobel consola son mari, le cajola, ajouta une friandise au dîner. Au fond, le pauvre diable était réellement affecté. Franz parti, l'emploi d'éternel amphitryon tenu autrefois par Risler aîné restait vide de nouveau, et le comédien songeait aux douceurs qui allaient lui manquer. Et dire qu'à côté de ce chagrin égoïste et de surface, il y avait une douleur vraie immense, la douleur qui tue, et que cette mère aveuglée ne s'en apercevait pas. Mais regarde donc ta fille, malheureuse femme, mais regarde cette pâleur transparente, ces yeux sans larmes qui brillent fixement, comme s'ils concentraient leurs pensées et leurs regards sur un objet visible à eux seuls. Mais fais-toi ouvrir cette petite âme fermée qui souffre. Interroge ton enfant, fais-la parler, fais-la pleurer surtout, pour la débarrasser du poids qui l'étouffe, pour que ses yeux obscurcis de larmes ne puissent plus fixer dans le vide cette horrible chose inconnue où il s'attache désespérément. Hélas, il est des femmes en qui la mère tue l'épouse. Chez celle-là, l'épouse avait tué la mère. Prêtresse du dieu de l'Obel, absorbée dans la contemplation de son idole, elle se figurait que sa fille n'était venue au monde que pour se dévouer au même culte, s'agenouiller devant le même autel. Toutes deux ne devaient avoir qu'un but dans la vie, travailler à la gloire du grand homme, consoler son génie méconnu. Le reste n'existait pas. Jamais la maman de l'Obel n'avait remarqué les rougeurs subites de Désiré dès que Franz entrait dans l'atelier. Tous ses détours de fille amoureuse pour parler de lui quand même, pour faire arriver son nom à tout propos dans leur causerie de travail, et cela depuis des années, depuis le temps lointain où Franz partait le matin à l'école centrale, à l'heure où les deux femmes allumaient leurs lampes pour commencer la journée. Jamais elle n'avait interrogé ces longs silences où la jeunesse confiante et heureuse s'enferme à double tour avec ses rêves d'avenir. Et si parfois elle disait à Désiré, dont le mutisme la fatiguait, « Mais qu'est-ce que tu as ?» La jeune fille n'avait qu'à répondre, « Je n'ai rien. » Pour que la pensée de la mère, distraite une minute, se reporta tout de suite à sa préoccupation favorite. Ainsi, cette femme qui lisait dans le cœur de son mari le moindre pli de ce front olympien et nul, n'avait jamais eu pour sa pauvre Zizi aucune de ces divinations de tendresse dans lesquelles les mères les plus âgées, les plus flétries, se rajeunissent jusqu'à une amitié d'enfant pour devenir confidentes et conseillères. Et c'est bien là ce que l'égoïsme inconscient des hommes comme de l'Obel a de plus féroce. Il en fait naître d'autres autour de lui. L'habitude qu'on a dans certaines familles de tout rapporter à un seul être laisse forcément dans l'ombre les joies et les douleurs qui lui sont indifférentes et inutiles. Et je vous demande en quoi le drame juvénile et douloureux qui gonflait de larmes le cœur de la pauvre amoureuse pouvait intéresser la gloire du grand comédien. Pourtant, elle souffrait bien. Depuis près d'un mois, depuis le jour où Sidonie était venue chercher Franz dans son coupé, Désiré savait qu'elle n'était plus aimée et connaissait le nom de sa rivale. Elle ne leur en voulait pas, elle les plaignait plutôt. Seulement, pourquoi était-il revenu? Pourquoi lui avait-il donné si légèrement cette fausse espérance? Comme les malheureux condamnés à l'obscurité d'un cachot accoutument leurs yeux aux nuances de l'ombre et leurs membres à l'étroit espace. Et puis, si on les amène un moment à la lumière, trouvent au retour le cachot plus triste, l'ombre plus épaisse. Elle aussi, la pauvre enfant, cette grande lumière survenue tout à coup dans sa vie, l'avait laissée en se retirant plus morne de toute la captivité retrouvée. Que de larmes dévorées en silence depuis ce moment-là, que de chagrins comptés à ces petits oiseaux, car cette fois encore, c'était le travail qui l'avait soutenu, le travail acharné sans répit, qui par sa régularité, sa monotonie, le retour constant des mêmes soins, des mêmes gestes, servait de modérateur à sa pensée. Et de même que sous ses doigts les petits oiseaux morts retrouvaient un semblant de vie, ses illusions, ses espérances mortes, elles aussi et pleines d'un poison bien plus subtil, bien plus pénétrant que celui qui volait en poudre autour de sa table de travail, battaient encore des ailes de temps en temps, avec un effort mêlé d'angoisse et l'élan d'une résurrection. Franz n'était pas tout à fait perdu pour elle. Quoiqu'il ne vînt que rarement la voir, elle le savait là, l'entendait entrer, sortir, marcher sur le carreau d'un pas inquiet, et quelquefois, par la porte entrebâillée, regardait sa silhouette aimée traverser le palier en courant. Il n'avait pas l'air heureux. Quel bonheur, d'ailleurs, pouvait l'attendre? Il aimait la femme de son frère. Et à l'idée que Franz n'était pas heureux, la bonne créature oubliait presque son propre chagrin pour ne penser qu'à celui de l'ami. Qu'il pût lui revenir pour l'aimer encore, elle savait bien que ce n'était plus possible. Mais elle pensait que peut-être un jour elle le verrait entrer, mourant et blessé, qu'il s'assiérait sur la petite chaise basse, et que posant sa tête sur ses genoux avec un grand sanglot, il lui conterait sa peine et lui dirait « Console-moi ». Cette chétive espérance la faisait vivre depuis 3 semaines. Il lui en fallait si peu. Mais non, même cela lui était refusé. Franz était parti, parti sans un regard pour elle, sans un adieu. Après la trahison de l'amant, la trahison de l'ami. Mais c'était horrible. Au premier mot de son père, elle se sentit précipitée dans un abîme profond, glacé, rempli d'ombre, dans lequel elle descendait rapidement, inconsciemment, sachant bien que c'était sans retour vers la lumière. Elle étouffait. Elle aurait voulu résister, se débattre, appeler au secours. Mais qui ? Elle savait bien que sa mère ne l'entendrait pas. Sidonie, oh, elle la connaissait maintenant. Il aurait mieux valu pour elle s'adresser à ces petits lophophores, au plumage lustré, dont les yeux fins la regardaient avec une gaieté si indifférente. Le terrible, c'est qu'elle comprit tout de suite que cette fois le travail même ne la sauverait pas. Il avait perdu sa qualité bienfaisante. Les bras inertes n'avaient plus de force. Les mains lasses, désunies, s'écartaient dans l'oisiveté du grand découragement. Qu'est-ce qui aurait pu la soutenir au milieu de ce grand désastre? Dieu, ce qu'on appelle le ciel? Elle n'y songea même pas. À Paris, surtout dans les quartiers ouvriers, les maisons sont trop hautes, les rues trop étroites, l'air trop troublé pour qu'on aperçoive le ciel. Il se perd dans la fumée des fabriques et le brouillard qui monte des toits humides. Et puis la vie est tellement dure pour la plupart de ces gens-là que si l'idée d'une providence se mêlait à leur misère, ce serait pour lui montrer le poing et la maudire. Voilà pourquoi il y a tant de suicides à Paris. Ce peuple qui ne sait pas prier est prêt à mourir à toute heure. La mort se montre à lui au fond de toutes ses souffrances, la mort qui délivre et qui console. C'était elle que la petite boiteuse regardait si fixement. Son parti avait été pris tout de suite. Il fallait mourir. Mais comment ? Immobile sur son fauteuil, pendant que la vie bête continuait autour d'elle, que sa mère préparait le dîner, que le grand homme débitait un long monologue contre l'ingratitude humaine, elle discutait le genre de mort qu'elle allait choisir. N'étant presque jamais seule, elle ne pouvait pas songer au réchaud de charbon qu'on allume après avoir bouché les portes et les fenêtres. Ne sortant jamais, elle ne pouvait pas songer non plus au poison qu'on achète chez l'herboriste, un petit paquet de poudre blanche qu'on fourre dans sa poche tout au fond avec l'étui et le dé. Il y avait bien aussi le soufre des allumettes, le vert de gris des vieux sous, la fenêtre grande ouverte sur le pavé de la rue. Mais la pensée qu'elle donnerait à ses parents, le spectacle horrible d'une agonie volontaire, que ce qui resterait d'elle, ramassé au milieu d'un attroupement de peuple, leur serait si affreux à voir, lui fit repousser ce moyen-là. Elle avait encore la rivière. Au moins l'eau vous emporte quelquefois si loin que personne ne vous retrouve et que la mort est entourée de mystères. La rivière, Elle frissonnait tout en y songeant. Et ce n'était pas la vision de l'eau noire et profonde qui l'effrayait. Les filles de Paris se moquent bien de cela. On jette son tablier sur sa tête pour ne pas voir et pouf! Mais il faudrait descendre, s'en aller dans la rue toute seule. Et la rue l'intimidait. Or, pendant que d'avance, la pauvre fille prenait cet élan suprême vers la mort et l'oubli, qu'elle regardait l'abîme de loin avec des yeux hagards, où la folie du suicide montait déjà, l'illustre de Lobel se ranimait peu à peu, parlait moins dramatiquement, puis comme il y avait à dîner des choux qu'il aimait beaucoup, il s'attendrissait en mangeant, se rappelait son vieux triomphe, la couronne d'or, les abonnés d'Alençon, et sitôt le dernier fini, s'en allait voir jouer le misanthrope à l'Odéon pour les débuts de Robe Ricard, pincé, tiré, ses manchettes toutes blanches, et dans sa poche une pièce de 100 sous, neuve et brillante, que sa femme lui avait donnée pour faire le garçon. « Je suis bien contente, » disait la maman de Lobel en enlevant le couvert. « Le père a bien dîné ce soir. Ça l'a un peu consolé, le pauvre homme. Son théâtre va achever de le distraire. Il en a tant besoin. » Oui, c'était cela le terrible, s'en aller seul dans la rue. Il faudrait attendre que le gaz fût éteint, descendre l'escalier tout doucement quand sa mère serait couchée, demander le cordon et prendre sa course à travers ce Paris où on rencontre des hommes qui vous regardent effrontément dans les yeux et des cafés tout brillants de lumière. Cette terreur de la rue, Désiré l'avait depuis son enfance. Toute petite, quand elle descendait pour une commission, les gamins la suivaient en riant. Elle ne savait pas ce qu'elle trouvait de plus cruel, ou cette parodie de sa marche irrégulière, le déhanchement de ses petites blouses insolentes, ou la pitié des gens qui passaient et dont le regard se détournait charitablement. Ensuite, elle avait peur des voitures, des omnibus. La rivière était loin. Elle serait bien lasse. Pourtant, il n'y avait pas d'autre moyen que celui-là. « Je vais me coucher, fillette, et toi, est-ce que tu veilles encore ?» Les yeux sur son ouvrage, fillette a répondu qu'elle veillerait. Elle veut finir sa douzaine. « Bonsoir alors, » dit la maman de Lobel, dont la vue affaiblie ne peut plus supporter longtemps la lumière. « J'ai mis le souper du père près du feu. Tu regarderas avant de te coucher. » Désirée n'a pas menti. Elle veut terminer sa douzaine pour que le père puisse l'emporter demain matin. Et vraiment avoir cette petite tête calme, penchée sous la lumière blanche de la lampe, on ne se figurerait jamais tout ce qu'elle roule de pensées sinistres. Enfin, voici le dernier oiseau de la douzaine, un merveilleux petit oiseau dont les ailes semblent trempées d'eau de mer, avec un reflet de saphir. Soigneusement, coquettement, Désiré le pique sur un fil de laiton dans sa jolie attitude de bête effarouchée qui s'envole. Oh, comme il s'envole bien, le petit oiseau bleu! Quel coup d'aile est perdu dans l'espace! Comme on sent que cette fois, c'est le grand voyage, le voyage éternel et sans retour. Maintenant, l'ouvrage est fini, la table rangée et les dernières aiguillées de soie minutieusement ramassées, les épingles sur la pelote. Le père, en rentrant, trouvera sous la lampe à demi baissée le souper devant la cendre chaude. Et ce soir effrayant et sinistre lui apparaîtra calme comme tous les autres, dans l'ordre du logis et la stricte observance de ses manies habituelles. Bien doucement, Désirée ouvre l'armoire, en tire un petit châle dont elle s'enveloppe, puis elle part. Quoi ? Pas un regard à sa mère, pas un adieu muet, pas un attendrissement. Non, rien. Avec l'effroyable lucidité de ceux qui vont mourir, elle a compris tout à coup à quel amour égoïste son enfance et sa jeunesse ont été sacrifiés. Elle sent très bien qu'un mot de leur grand homme consolera cette femme endormie, à qui l'on veut presque de ne pas se réveiller, de la laisser partir ainsi, sans un frisson de ses paupières baissées. Quand on meurt jeune, même volontairement, ce n'est jamais sans révolte. Et la pauvre Désirée sort de la vie indignée contre son destin. La voilà dans la rue, où va-t-elle? Tout est déjà désert. Ces quartiers, si animés le jour, s'apaisent le soir de bonne heure. On y travaille trop pour ne pas y dormir vite. Pendant que le Paris des boulevards, encore plein de vie, fait planer sur la ville entière le reflet rose d'un lointain incendie, ici toutes les grandes portes sont fermées, les volets mis aux boutiques et aux fenêtres. De temps en temps, un marteau attardé, la promenade d'un sergent de ville qu'on entend sans le voir, le monologue d'un ivrogne coupé par les écarts de sa marche, trouble le silence. Ou bien un coup de vent subit, venu des quais voisins, fait claquer la vitre d'un réverbère, la vieille corde d'une poulie s'abat au détour d'une rue, s'éteint avec un sifflement sous un seuil mal joint. Désirée marche vite, serrée dans son petit châle, la tête levée et les yeux secs. Sans savoir sa route, elle va droit, tout droit, devant elle. Les rues du Marais, noires, étroites, où clignote un bec de gaz de loin en loin, se croisent, se contournent, et à chaque instant, dans cette recherche fiévreuse, elle revient sur ses pas. Il y a toujours quelque chose qui se met entre elle et la rivière. Pourtant, ce vent qui souffle lui en apporte la fraîcheur humide au visage. Vraiment, on dirait que l'eau recule, s'entoure de barrières, que des murs épais et des maisons hautes se mettent exprès devant la mort. Mais la petite boiteuse a bon courage, et sur le pavé inégal des vieilles rues, elle marche. Elle marche. Avez-vous vu quelquefois, le soir d'un jour de chasse, un perdreau blessé s'enfuir au creux d'un sillon? Il s'affaisse, il rase, traînant son aile sanglante vers quelque abri où il pourra mourir en repos. La démarche hésitante de cette petite ombre, suivant les trottoirs, frôlant les murs, donne tout à fait cette impression-là. Et songez qu'à cette même heure, presque dans le même quartier, quelqu'un erre aussi par les rues, attendant, guettant, désespéré. Ah, s'ils pouvaient se rencontrer, si elle l'abordait, ce passant fiévreux, si elle lui demandait sa route. S'il vous plaît, monsieur, pour aller à la Seine, il la reconnaîtrait tout de suite. « Comment, c'est vous, mamselle Zizi, mais que faites-vous dehors à pareille heure ?»« Je vais mourir, Franz. C'est vous qui m'avez ôté le goût de vivre. » Alors lui, tout ému, la prendrait, la serrerait, l'emporterait dans ses bras, disant « Oh non, ne meurs pas, j'ai besoin de toi pour me consoler, pour me guérir de tout le mal que l'autre m'a fait. » Mais c'est là un rêve de poète. Une de ces rencontres comme la vie n'en s'est pas inventée. Elle est bien trop cruelle, la dure vie. Et quand, pour sauver une existence, Il faudrait quelquefois si peu de choses. Elle se garde bien de fournir ce peu de choses-là. Voilà pourquoi les romans vrais sont toujours si tristes. Des rues, encore des rues, puis une place et un pont dont les réverbères tracent dans l'eau noire un autre pont lumineux. Enfin voici la rivière. Le brouillard de ce soir d'automne humide et doux lui fait voir tout ce Paris inconnu pour elle dans une grandeur confuse que son ignorance des lieux augmente encore. C'est bien ici qu'il faut mourir. Elle se sent si petite, si isolée, si perdue dans l'immensité de cette grande ville, allumée et déserte. Il lui semble déjà qu'elle est morte. Elle s'approche du quai, et tout à coup un parfum de fleurs, de feuillage, de terre remuée l'arrête une minute au passage. À ses pieds, sur le trottoir qui borde l'eau, des masses d'arbustes entourés de paille, des pots de fleurs dans leurs cornets de papier blanc sont déjà rangés pour le marché du lendemain. Enveloppés de leurs châles, les pieds sur leurs chaufferettes, les marchandes s'appuient à leurs chaises, engourdies par le sommeil et par la fraîcheur de la nuit. Les reines marguerites de toutes couleurs, les résédas, les rosiers d'arrière-saison, embaument l'air, dressés dans un rayon de lune avec leur ombre légère autour d'eux, transportés, dépaysés, attendant le caprice de Paris endormi. Pauvre petite désirée! On dirait que toute sa jeunesse, ses rares journées de joie et son amour déçu lui montent au cœur dans les parfums de ce jardin ambulant. Elle marche doucement au milieu des fleurs. Quelquefois, un coup de vent fait bruire les arbustes l'un contre l'autre comme les branches d'une futaie, et au ras des trottoirs, des bourriches pleines de plantes arrachées exhalent une odeur de terre mouillée. Elle se rappelle la partie de campagne que Franz lui a fait faire. Ce souffle de nature qu'elle a respiré ce jour-là pour la première fois, elle le retrouve au moment de mourir. « Souviens-toi, » semble-t-il lui dire. Et elle répond en elle-même, « Oh oui, je me souviens. » Elle ne se souvient que trop. Arrivée au bout de ce quai, parée comme pour une fête, la petite ombre furtive s'arrête à l'escalier qui descend sur la berge. Presque aussitôt, ce sont des cris, une rumeur tout le long du quai. « Vite, une barque, des crocs !» Des mariniers, des sergents de ville accourent de tous les côtés. Un bateau se détache du bord, une lanterne à l'avant. Les marchandes de fleurs se réveillent, et comme une d'elles demande en bâillant ce qui se passe, la marchande de café, accroupie à l'angle du pont, lui répond tranquillement « Oh, c'est une femme qui vient de se ficher à l'eau !» Eh bien non, la rivière n'a pas voulu de cet enfant. Elle a eu pitié de tant de douceur et de grâce. Voici que dans la lumière des lanternes qui s'agitent en bas sur la berge, un groupe noir se forme, se met en marche. Elle est sauvée. C'est un tireur de sable qui l'a repêchée. Des sergents de ville la portent, entourés de mariniers, de débardeurs, et dans la nuit on entend une grosse voix enrouée qui ricane. « Oh, voilà une poule d'eau qui m'a donné du mal !» C'est qu'elle me glissait dans les doigts, fallait voir. Je crois bien qu'elle aurait voulu me faire perdre ma prime. Peu à peu, le tumulte se calme, les curieux se dispersent, et pendant que le groupe sombre noir s'éloigne vers un poste de police, les marchandes de fleurs reprennent leur somme, et sur le quai désert, les reines marguerites frémissent au vent de nuit. Ah, pauvre fille, Tu croyais que c'était facile de s'en aller de la vie, de disparaître tout à coup. Tu ne savais pas qu'au lieu de t'emporter vite au néant que tu cherchais, la rivière te rejetterait à toutes les hontes, à toutes les souillures des suicides manqués. D'abord le poste hideux avec ses bancs salis, son plancher où la poussière mouillée semble de la boue des rues. Et c'est là que Désiré dut finir sa nuit. On l'avait couché sur un lit de camp devant le poêle, charitablement bourré à son intention, et dont la chaleur malsaine faisait fumer ses vêtements lourds et ruisselants d'eau. Où était-elle? Elle ne se rendait pas bien compte. Ses hommes couchaient tout autour dans des lits pareils aux siens. La tristesse vide de cette pièce, les hurlements de deux ivrognes enfermés qui tapaient à la porte du fond avec des jurons épouvantables. La petite boiteuse écoutait et regardait tout cela, vaguement, sans comprendre. Près d'elle, une femme en haillons, les cheveux sur les épaules, se tenait accroupie devant la bouche du poêle, dont le reflet rouge ne parvenait pas à colorer un visage hagard et blême. C'était une folle recueillie dans la nuit, une pauvre créature qui remet machinalement la tête et ne cessait de répéter d'une voix sans conscience, presque indépendante du mouvement des lèvres. Oh oui, de la misère, on peut le dire. Oh oui, de la misère, on peut le dire. Et cette plainte sinistre au milieu des ronflements des dormeurs faisait à Désiré un mal horrible. Elle fermait les yeux pour ne plus voir ce visage égaré qui l'épouvantait comme la personnification de son propre désespoir. De temps en temps, la porte de la rue s'entr'ouvrait, la voix d'un chef appelé des noms et deux sergents de ville sortaient, pendant que deux autres rentraient, se jetaient en travers des lits, éreintés comme des matelots de quart qui viennent de passer la nuit sur le pont. Enfin, le jour parut dans ce grand frisson blanc, si cruel aux malades. Réveillé subitement de sa torpeur, Désiré se dressa sur son lit, rejeta le caban dont on l'avait enveloppé, et malgré la fatigue et la fièvre, essaya de se mettre debout pour reprendre possession d'elle-même et de sa volonté. Elle n'avait plus qu'une idée, échapper à tous ces yeux qui s'ouvraient autour d'elle, sortir de cet endroit affreux où le sommeil avait le souffle si lourd et des poses si tourmentées. « Messieurs, je vous en prie, dit-elle toute tremblante, laissez-moi retourner chez maman. » Si endurcis qu'ils fussent au drame parisien, ces braves gens comprenaient bien qu'ils étaient en face de quelque chose de plus distingué, de plus émouvant que d'ordinaire. Seulement, ils ne pouvaient pas le reconduire encore chez sa mère. Il fallait aller chez le commissaire auparavant. C'était indispensable. On fit approcher un fiacre par pitié pour elle, mais il fallut sortir du poste, et il y en avait du monde à la porte pour regarder passer la petite boiteuse avec ses cheveux mouillés, collés aux tempes et son caban de serge qui ne l'empêchait pas de grelotter. Au commissariat, on lui fit monter un escalier sombre et humide dans lequel allaient et venaient des figures patibulaires. Une porte battante que la banalité du service public ouvrait et fermait à chaque instant, des pièces froides, mal éclairées, sur les bancs des gens silencieux, abasourdis, endormis, des vagabonds, des voleurs, des filles, une table couverte d'un vieux tapis vert, où écrivait le chien du commissaire, un grand diable à tête de pion, à redingote râpée. C'était là. Quand Désirée entra, un homme se leva de l'ombre et vint au-devant d'elle en lui tendant la main. C'était l'homme à la prime, son hideux sauveur à 25 francs. « Eh bien, la petite mère, lui dit-il avec son rire cynique et sa voix qui faisait penser à des mythes brouillards sur l'eau, comment ça va-t-il, vu notre plongeon ?» Et il racontait aux assistants de quelle façon il l'avait repêché, qu'il l'avait empoigné comme ça, puis comme ça, et que sans lui, elle serait sûrement en train de filer sur Rouen, entre deux eaux. La malheureuse était rouge de fièvre et de honte, tellement troublée qu'il lui semblait que l'eau avait laissé un voile sur ses yeux, un bourdonnement dans ses oreilles. Enfin, on l'introduisit dans une pièce plus petite, devant un personnage solennel, décoré, monsieur le commissaire en personne, en train de boire son café au lait et de lire la gazette des tribunaux. Tout en trempant une mouillette, sans lever les yeux de son journal, « Oh, c'est vous !» dit-il d'un air bourru. Et tout de suite, le brigadier, qui avait amené Désiré, commença à lire son rapport. À minuit ou un quart, quai de la Mégisserie, devant le numéro 17, l'a nommé Delobel, 24 ans, fleuriste, demeurant rue de Braque, chez ses parents, a tenté de se suicider. En se jetant dans la Seine, d'où elle a été retirée saine et sauve par le sieur Parcheminet, tireur de sable, domicilié rue de la Butte-Chaumont. Monsieur le commissaire écoutait, tout en mangeant, de l'air tranquille et ennuyé d'un homme que rien n'étonne plus. À la fin, il leva vers la nommée de Lobel un regard prudomesque et sévère. « Et vous l'admonesta de la belle façon. C'était très mal, c'était très lâche ce qu'elle avait fait là. Mais qu'est-ce qui avait pu la pousser à cette mauvaise action? Pourquoi voulait-elle se détruire? Voyons, répondez, nommée de Lobel, répondez, pourquoi ?» Mais la nommée de Lobel s'entêtait à ne pas répondre. Il lui semblait que ce serait souiller son amour de l'avouer dans un pareil endroit. « je ne sais pas, » disait-elle tout bas, en frissonnant. Dépité et impatienté, monsieur le commissaire déclara qu'on allait la ramener chez ses parents, mais à une condition, c'est qu'elle promettrait de ne plus jamais recommencer. « Voyons, me le promettez-vous ? » « Oh oui, monsieur. » « Vous ne recommencerez plus jamais ? » « Oh non, bien sûr, plus jamais, plus jamais. » Malgré ses protestations, monsieur le commissaire de police hochait la tête, comme s'il ne croyait pas à ce serment. La voilà dehors, en route pour la maison, pour le refuge. Mais son martyr n'était pas encore fini. Dans la voiture, l'homme de police qui l'accompagnait se montrait trop poli, trop aimable. Elle avait l'air de ne pas comprendre, s'éloignait, retirait sa main. Quel supplice! Mais le plus terrible, ce fut l'arrivée rue de Braque, la maison en émoi, la curiosité des voisins qu'il fallait subir. Depuis le matin, en effet, tout le quartier était informé de sa disparition. Le bruit courait qu'elle était partie avec Franz Rissler. De bonne heure, on avait vu sortir l'illustre de la belle, tout effaré, son chapeau de travers, les manchettes fripées, ce qui était l'indice d'une préoccupation extraordinaire. Et la concierge, en montant les provisions, avait trouvé la pauvre maman, à moitié folle, courant d'une chambre à l'autre, cherchant un mot de l'enfant, une trace, si petite qu'elle fût, qui pût la conduire au moins à une conjecture. Dans l'esprit de cette malheureuse mère, une tardive lumière s'était faite tout à coup sur l'attitude de sa fille pendant ces derniers jours, sur son silence à propos du départ de Franz. « Ne pleure pas, ma femme, je la ramènerai !» avait dit le père en sortant. Et depuis qu'il était parti, autant pour s'informer que pour se soustraire au spectacle de cette grande douleur. Elle ne faisait qu'aller et venir du palier à la fenêtre, de la fenêtre au palier. Au moindre pas dans l'escalier, elle ouvrait la porte avec un battement de cœur, s'élançait dehors. Puis quand elle rentrait, la solitude du petit logis, encore accrue par le grand fauteuil vide de Désiré, tournée à demi vers la table de couture, la faisait fondre en larmes. Tout à coup, une voiture s'arrêta en bas devant la porte. Des voix, des pas résonnèrent dans la maison. « Madame de Lobel, la voilà, votre fille est trouvée !» C'était bien Désiré qui montait, pâle, défaillante, au bras d'un inconnu, sans châle ni chapeau, entourée d'une grande capote brune. En apercevant sa mère, elle lui sourit d'un petit air presque niais. « Ne te frais pas, ce n'est rien, » essaya-t-elle de dire, puis elle s'affaissa sur l'escalier. Jamais la maman de Lobel ne se serait crue si forte. Prendre sa fille, l'emporter, la coucher, tout cela fut fait en un tour de main. Et elle lui parlait, et elle l'embrassait. « Enfin, c'est toi, te voilà, mais d'où viens-tu, malheureuse enfant ? C'est vrai, Dick, tu as voulu te tuer ? Tu avais donc une bien grande peine, mais pourquoi me l'as-tu cachée ?» En voyant sa mère dans cet état, brûlée de larmes, vieillie en quelques heures, Désiré se sentit prise d'un remords immense. Elle pensait qu'elle était partie sans lui dire adieu, et qu'au fond de son cœur, elle l'accusait de ne pas l'aimer. Ne pas l'aimer. « Mais je serais morte de ta mort !» disait la pauvre femme. « Oh, quand je me suis levée ce matin, et que j'ai vu que ton lit n'était pas défait, que tu n'étais pas dans l'atelier non plus. Oh, j'ai fait un tour et je suis tombée roide. As-tu chaud maintenant? Es-tu bien? Tu ne feras plus ça, n'est-ce pas, de vouloir mourir ?» Et elle bordait ses couvertures, réchauffait ses pieds, la prenait sur son cœur pour la bercer. Du fond de son lit, Désiré, les yeux fermés, revoyait tous les détails de son suicide, toutes les choses hideuses par lesquelles elle avait passé en sortant de la mort. Dans la fièvre qui redoublait, dans le lourd sommeil qui commençait à la prendre, sa course folle à travers Paris l'agitait, la tourmentait encore. Des milliers de rues noires s'enfonçaient devant elle avec la Seine au bout de chacune. Cette horrible rivière qu'elle ne pouvait pas trouver pendant la nuit la poursuivait maintenant. Elle se sentait tout éclaboussée de son limon, de sa boue. Et dans le cauchemar qui l'oppressait, la pauvre enfant, ne sachant plus comment échapper à l'obsession de ses souvenirs, disait tout bas à sa mère « Oh, cache-moi, cache-moi, j'ai honte !»